Bien, alors, bonsoir à tous. Merci d'être Zootopia, d'être si fidèle au festival. Et puis cet espace Scope qui petit à petit prend sa dimension. C'est un espace que je trouve assez convivial et très agréable. Donc on a ce soir le plaisir d'avoir Monsieur Gérard Klein. Alors je vais commencer par vous mettre une petite caricature qui a été faite pour.
C'est
moi
sur Mars en 2005.
Ben voilà, c'est une petite caricature. Bon, c'est dans un monde parallèle dans lequel Gérard Klein serait sur Mars en 2050. Voilà. Qui est très joli, qui est très. Qui évoque bien à la fois la malice du personnage, je trouve, la profonde érudition et puis la conviction qui ne s'est jamais démenti et qui ne se démentira pas, que la science-fiction a pour mission aussi de nous préparer au futur en nous expliquant le présent. Donc Gérard, mille fois merci d'être là. Alors, comme c'est un café ici qu'on est au bar de Madame Spock, je pense que c'est aussi beaucoup les questions du public, c'est-à-dire que je ne vais pas vous faire une présentation de l'œuvre de Monsieur Klein, etc. On va surtout dialoguer avec vous. Je pense qu'il attend aussi vos questions. Donc je vais commencer par quelques questions qui me tiennent à cœur, hein, que j'ai subjectivement comme ça un peu extraites de son parcours très, très vaste. Et puis on vous donnera rapidement la parole pour débattre. Alors, mon Gérard Klein, faut-il le présenter? Je ne pense pas que ce soit nécessaire. D'abord, un immense éditeur. On va commencer par la partie peut-être la partie émergée de l'iceberg. Un immense éditeur, Ailleurs et Demain, toute une aventure sur laquelle j'aimerais revenir. Une aventure sur laquelle lui-même est revenu à plusieurs reprises, dans des préfaces, dans des commentaires, dans des articles. Pour ceux qui connaissent le site 42.org, vous savez à quel point la richesse, la valeur ajoutée de Gérard Klein se comprend et s'entend aussi de ses préfaces, de ses postfaces et de ses commentaires, donc on y reviendra. Un immense auteur de science-fiction aussi, malheureusement un auteur qui a été un peu dans cette histoire d'amour avec la science-fiction, qui a été un peu occulté par l'éditeur et parfois par l'essayiste. Il y a sans doute dans les mondes parallèles un monde où Gérard, tu n'es resté qu'auteur. Et tu as été l'auteur sans doute le plus prolifique, je ne peux pas l'imaginer autrement, mais aussi un auteur extrêmement ambitieux, extrêmement rigoureux, et pour certains, et même pour beaucoup, le meilleur auteur de science-fiction français, toute génération confondue, par la puissance de sa vision, la puissance de sa création, et la rigueur avec laquelle il a abordé la science-fiction, la quintessence même de ce que doit être la science-fiction. Et je vous ai amené l'image que j'aime bien, qui me fait souvent penser à Gérard, qui pourtant est une image beaucoup plus ancienne, mais qui est celle-là, qui était l'image de Hugo Gernsback dans Amazing Stories, et qui était cette idée que la science-fiction ne pouvait s'écrire qu'en trouvant le juste équilibre entre les théories et les faits, et que la science-fiction est un merveilleux rationnel, et que c'est son exigence ultime que de le rester. Et je pense que Gérard, est-ce que ce regard sur la science-fiction, ce regard, pour commencer par ça, sur la quintessence de la science-fiction, c'est d'être toujours ancré dans la réalité et de revenir à la réalité, est-ce que tu y crois encore aujourd'hui, est-ce que tu la défends toujours aujourd'hui, malgré, on voit bien, les concurrents qu'elle a?
Dans la réalité, je ne sais pas. Non, je ne dirais pas qu'elle doit nécessairement être ancrée dans la réalité. En revanche, elle doit essayer de rester dans le rationnel, enfin dans l'imaginable rationnel, en excluant en principe toute intervention magique, surnaturelle, enfin, etc. C'est-à-dire se distinguant par là radicalement du fantastique. Cela étant, écrit des histoires de science-fiction, et j'en ai écrit quelques-unes, surtout des nouvelles d'ailleurs, c'est ce que je préfère de ce que j'ai produit. Il arrive qu'on s'écarte assez considérablement de la réalité scientifique au sens strict. Et c'est très bien.
Alors, les nouvelles, on y reviendra aussi. Cette exigence, tu l'as guidée dans ton travail d'auteur, mais aussi dans ton travail d'éditeur. Alors Ailleurs et Demain, c'est cette collection inoubliable que tout le monde connaît, bien sûr, chez Robert Laffont, l'histoire de la rencontre avec Robert Laffont, Jean-Pierre Mocky, tu l'as raconté. Moi j'aimerais revenir sur une phrase, où voilà ce que tu dis, Ainsi que vous l'avez sans doute compris, mon rapport à la science-fiction, et en particulier à Ailleurs et Demain, à quoi j'ai sans doute sacrifié une bonne partie de mon temps, et donc de mon œuvre virtuelle, est une histoire d'amour.
D'ailleurs, je le répète, que dire de plus ? Il y a un aspect de ma vie et de ma carrière dont on n'a pas du tout parlé et qui a peut-être empêché d'écrire davantage aussi, c'est que j'ai été un économiste pendant au moins une trentaine d'années. Je me suis beaucoup occupé de l'épargne de ménage, c'est moi qui ai conçu le plan d'épargne logement, enfin je le cite ça parce que c'est certainement ma production dans ce domaine la plus célèbre. Et ensuite, je me suis beaucoup occupé aussi de prospective, en particulier de prospective du système de retraite, qui est un sujet d'une grande actualité. Donc, oui, j'ai eu plusieurs vies, bon, enfin, en trois, économiste, éditeur, et dans la mesure du possible, écrivain, donc c'est une restée comme moyenne. Enfin, j'ai quand même dû écrire quelque chose comme 210 à 90 nouvelles, donc je pense qu'une soixantaine au moins doivent rester à jamais gravées dans la mémoire de l'humanité.
Bon, ben moi c'est dit, tu me diras lesquels sont les 60, les 60 inoubliables. Quelle serait la nouvelle dont tu es le plus fier, peut-être, qui n'est peut-être pas forcément celle que les gens connaissent le plus.
Non, une des nouvelles que je préfère, c'est « Le virus ne parle pas ». Et donc je pensais au départ qu'elle n'aurait pas grand succès parce qu'elle repose presque entièrement sur un dialogue entre un scientifique et un personnage qui est moi-même, enfin de manière invisible, et il me raconte sa principale découverte qu'il n'a jamais pu publier, il dit de quoi. Il s'est trouvé que cette nouvelle a eu en fait beaucoup plus de succès que je l'escomptais. Elle a intéressé énormément de gens, y compris les scientifiques. Et il y a un an ou deux, j'ai rencontré ici quelqu'un de l'ESSAL qui l'a lu avec beaucoup d'intérêt et qui m'a donné des éléments pour lui écrire 50 ans après, parce qu'elle est parue initialement en 1967, je crois, une suite, mais je ne l'ai pas encore rédigée. Je l'ai dans la tête, mais je ne l'ai pas encore écrite. Une autre nouvelle que j'aime beaucoup, hein, je prends quelques libertés avec la rationalité pure et dure, scientifique en tout cas, c'est l'avis au directeur du jardin zoologique, où j'imagine que pour se camoufler, les extraterrestres assez étranges, ils ressemblent à une espèce de cloporte géant, de plat géant, plutôt des cloportes géants, se sont installés dans un jardin zoologique. Et à partir de là, se sont creusées une gigantesque base souterraine. Enfin, j'apprends directement mon personnage central, apprend le triste sort de quelqu'un qui a été élevé par eux, en recevant une boule de papier qui lui est remise par un éléphant.
Super, la gueule aussi. Au niveau de cette histoire d'amour, justement, elle a été une histoire d'amour avec plusieurs terrains, plusieurs domaines. Que tu as aussi prolongé, comme tu le dis, hein, c'est un sacrifice, et je pense que le sacrifice n'a pas été vain, loin s'en faut, et nous en sommes tous les bénéficiaires. Mais cette histoire d'amour, est-ce que c'était aussi de donner aux autres auteurs, parce que je crois que c'est ça que tu as fait, et notamment aux auteurs français, c'était ça le début de la création d'Ailleurs et Demain, le moyen d'être publié, de gagner leur vie avec leurs textes et leur imaginaire.
Oui, quand je suis rentré en 1962 de la guerre d'Algérie, que je fais ça aussi, j'ai découvert que la situation d'édition de science-fiction, en particulier pour les auteurs français, était absolument catastrophique, il n'y avait pratiquement plus de débouchés. Moi, j'ai réussi à publier, enfin sans difficulté, chez de Noël un roman 1963 ou quelque chose comme ça, enfin il y avait vraiment extrêmement peu de débouchés. Robert Canter chez Noël, il n'y a pratiquement pas entendu parler de français. Et en dehors du fleuve noir, dans le niveau, parce que nous savons, il n'y a pas grand-chose. Donc c'est à partir de ce moment-là que j'ai souhaité créer un débouché. Bon, j'ai envoyé à toutes sortes d'éditeurs des notes, j'ai fait quelques rencontres qui évidemment ne m'ont rien donné, jusqu'à ce que par chance, comme je l'ai souvent raconté, je rencontre Robert Laffont qui m'a dit « Venez me voir ». Je suis allé le voir, je lui ai expliqué ce que j'avais envie de voir par œuvre en train de faire. Et elle me dit, oui, bon, ben, d'accord, cette collection, c'est entendu, on va la faire. Et je lui dis, vous savez, moi, je n'ai pas beaucoup de temps pour m'en occuper. Il faut en trouver quelqu'un. Et à ce moment-là, la femme me dit, ben, c'est vous, je ne fais pas. Alors, je me suis trouvé pris dans le canard. Et je n'en suis pas encore sorti.
Oui, alors tu dis, toujours dans tes préfaces et en tout cas dans tes commentaires sur Les Ailleurs et Demain, tu dis « Nous verrons bien où nous en serons lors du 50e anniversaire de la collection, que j'espère bien fêter avec les lecteurs, mais un peu de patience, l'avenir dure longtemps. » Ça veut dire que « Ailleurs et Demain » c'est inscrit dans la durée. Est-ce que dès le départ, tu inscrivais « Ailleurs et Demain » dans la durée, ou est-ce que c'était avec l'idée que peut-être tout allait s'arrêter? Avec Robert Laffont, quand même, c'était plutôt la solidité.
Spécialement avec Robert. Non, mais quand on lance quelque chose, on ne sait jamais si ça va durer ou pas. C'est le temps qui fait que ça a duré. Là, il faut bien dire qu'aujourd'hui, les circonstances sont beaucoup plus difficiles parce qu'au fil des 15 dernières années, le lectorat de science-fiction s'est considérablement étiolé. Je pense que la moitié des lecteurs de science-fiction sont présents, ce qui ne laisse pas très bien augurer de l'avenir des collections de qualité, en particulier d'ailleurs. Je continuerai autant que je peux, mais il est très très difficile aujourd'hui de publier des traductions, par exemple, parce que les traductions de bonne qualité sont coûteuses. Et c'est un aveu que j'étais obligé de faire il y a une quinzaine de jours, à Robert Benford, qui est un ami à qui je venais. J'aimerais bien publier quand même des bouquins, mais je ne peux pas. Alors l'avenir, bah oui. L'expression, la complicité, je l'ai un peu emprunté à l'avenir dure longtemps, à Louis Althusser, que j'ai un tout petit peu connu.
Alors l'avenir dure longtemps, histoire quand même de vous rappeler, Ailleurs et Demain, c'est Le Vagabond de Fritz Leiber, c'est Dune de Frank Herbert, La main gauche de la nuit d'Ursula Le Guin, Tous à Zanzibar de John Brunner, Le temps incertain de Michel Jury, Limonades urbaines de Robert Silverberg, Cette chère humanité de Philippe Curval. Rendez-vous avec Rama d'Arthur Clamick. La maison du cygne de Hygiène d'Arrigny, et ainsi de suite. On pourrait. La litanie est presque poétique, c'est-à-dire qu'on a les titres immenses, inoubliables. Alors, tu as souvent parlé de Dune, de Frank Herbert, de la manière dont les choses, tu l'as déjà raconté, de la manière dont les choses étaient faites. Est-ce qu'il y a un autre titre d'un auteur américain, peut-être une rencontre avec Robert Silverberg, qui était particulièrement, dont tu étais particulièrement fier en tant que jeune directeur de collection, d'Ailleurs et Demain, dans les premières années?
Silverberg est le seul auteur américain, je crois, que je connaissais avant d'avoir créé Ailleurs et Demain, parce que je suis fait un voyage à New York en 1966, et le milieu new-yorkais de la science-fiction a organisé pour moi une soirée, alors je suis un peu moins connu. Et là, j'ai rencontré pour la première fois Robert Silverberg et nous avons beaucoup sympathisé, si bien que j'ai eu Ailleurs et Demain. Il a évidemment été un des premiers à en mettre sur la liste de ce que je voulais publier, j'avais envie de publier. Un grand nombre de ses meilleurs livres étaient déjà parus ailleurs, donc je n'ai pas pu les reprendre. J'ai repris Les Malades Urbaines, qui est certainement un de ses meilleurs livres. J'ai publié toute la série beaucoup plus commerciale des Magies pour. John Brunner est devenu un grand ami. Il faut dire qu'il parlait parfaitement français, qu'il faisait deux choses. J'étais très content de pouvoir le rencontrer après avoir publié tous ses Zanzibar. Ensuite, j'ai publié la plupart de ses livres, en tout cas de ses meilleurs livres. Et Frank Herbert est également devenu un grand ami après la publication, quelques années après, du Dune. L'histoire de Dune est intéressante parce que, surtout sur l'histoire américaine, Herbert a écrit il y a 5 ou 6 ans, entre 1959 et 1964 ou 1965, 5 ou 6 ans, a écrit Dune. Et il n'a pu le publier sous une forme très abrégée. La revue de Campbell, Astounding, ça fait peut-être déjà un autre fact fiction, enfin ça n'a pas beaucoup d'importance. Mais aucun éditeur, d'ailleurs pas l'agent, c'est pas la question, mais aucun éditeur américain ne s'y intéressait. et il a fini par paraître chez un tout petit éditeur, exactement un éditeur qui ne publiait pas du tout de littérature ni de romans dans quelque domaine que ce soit, mais des manuels de réparation de voitures et de motos. Et ça n'a pas eu grand succès chez cet éditeur, si bien que le livre qui est paru donc en 1965, moi je l'ai découvert dans une édition poche avant de créer le règlement en 67, je pense, ou en 68, et si bien qu'il était en tête de ma liste pour le règlement. Il avait d'ailleurs circulé dans l'édition parisienne, qui évidemment ne voulait pas, trop gros, incompréhensible, illisible, enfin tout ce qu'on peut imaginer. Je l'ai fait traduire d'un temps Michel de Mute, et le succès était très lent à venir. Il a fallu 7 ou 8 ans pour l'installer. Ma femme y est arrivée. Alors, ce qui est intéressant, ce que c'est une histoire américaine, c'est qu'il était paru chez ce petit éditeur américain, j'ai oublié le nom, à l'insistance d'un amateur de science-fiction, qui était lui-même un auteur dont le nom est impossible, enfin, qui n'est pas facile à trouver. J'ai cherché pendant des années, j'ai fini par le trouver. Et le malheureux a été vidé quelques années après avoir fait publier d'une par cet éditeur, parce que ça n'avait eu aucun succès. Alors ça a été repris par un grand éditeur, et à partir de là, ça a bien marché. Mais il faut bien voir que Robert n'a pu quitter les activités nourricières qu'en 1972, donc 7 ans après la première apparition de Bull. Et il a toujours voué une fidélité sans limite aux éditeurs qu'il avait publiés avant le succès, donc par chance, parce que simplement j'ai un coup de goût, j'étais.
Oui, et puis comme tu disais aussi, il n'y a pas souvent, enfin peut-être maintenant les choses ont changé, mais il n'y a pas souvent de best-sellers dans la science-fiction, c'est plutôt, tu disais, des long-sellers, c'est-à-dire des succès qui s'installent dans la durée, et c'est ce que finalement Ailleurs et Demain a été aussi. Alors, moi j'ai encore une question quand même sur Ailleurs et Demain, je regarde l'heure en même temps, je pense à vous hein, pour laisser des questions, d'autres aspects aussi, on va revenir sur Gilles d'Argir, on l'a dit tout à l'heure. On en a même parlé avec quelqu'un qui est par là. Tu disais, j'ai créé Ailleurs et Demain pour les auteurs français, pour valoriser la production française. Et puis en même temps, tu dis, sur 70 nouvelles reçues, il n'y en a qu'une demi-douzaine de publiables, relevant au demeurant plutôt d'un bon niveau amateur que du travail de professionnel. C'est-à-dire que tu conjugues...
Ça, c'est autre chose. Hein. Ça n'a pas de rapport direct avec Ailleurs et Demain, c'est un rapport.
Non, mais sur l'exigence, je veux dire, sur l'exigence...
Mais ce dont tu parles, sans faire de rapport, tu cites, c'est relatif à un volume qui s'appelait Utopie...
C'est ça, qui a avorté.
J'avais publié Utopie 75, si je me souviens bien, qui était de bonne qualité. Et 10 ans après, j'ai voulu remettre ça. On a fait un appel au peuple. J'avais demandé à Michel Géry de se déclarer. Et on n'a rien reçu de convenable. Il y avait une nouvelle de Philippe Perbin, qui d'ailleurs l'avait écrite indépendamment. Et puis, enfin, en ce qui concerne la collection, d'une part, oui, je voulais faire la plus large place possible aux auteurs français. Mais j'ai eu beaucoup de mal. Enfin, j'ai commencé par les traductions, j'avais toute une liste sous le coude, mais j'ai eu beaucoup de mal à trouver des auteurs français, si bien pour amorcer la pompe en quelque sorte, j'ai publié en 1971 mon roman Les Seigneurs des Rivières, qui avait eu beaucoup de succès. À ce moment-là, j'ai commencé à recevoir des manuscrits, dont celui de Michel Jory, que je commence en lien avec son père, mais en 1973, le manuscrit de Péral. Alors en même temps, j'ai choisi de rééditer un certain nombre de textes dans la série classique de l'Ailleurs et Demain, qui me paraissait important. Je pense à Jacques Spitz, l'expérience de Dr. Bobs et Lady Galatoire, au Verzinger qui était totalement introuvable à Chine d'Orléans, qui a largement précédé le Richard Madison, qui est aussi, etc. Donc j'ai publié pas mal de Français qui qui était pratiquement oublié. Puis ensuite, d'autres éditeurs s'y sont mis. Cette série classique a perdu son sens. J'ai également créé une série essai où je crois 4 titres sont parus. Et là, je n'ai pas donné suite. Le public n'était pas absent, c'est pas très très important, il y a 4 ou 5 000 exemplaires, ce qui aujourd'hui peut être gigantesque, mais surtout je ne trouvais pas d'essai à tout.
Il y avait notamment l'effet science-fiction de Christa Bogdanov.
Oui, qui est un bouquin très drôle. Enfin,
qui était la meilleure vente de la partie essai.
Je ne suis pas sûr. On les a peut-être. Après, il y a eu le Sadoul, la reprise de son histoire de science-fiction. Non, et à peu près tous les livres ont fait dans les mêmes chiffres, c'est-à-dire 4 ou 5 000. Mais le livre de Bogdanov mérite vraiment d'être, tous les plus, mais mérite vraiment d'être regardé de près parce que, pour ceux qui ne connaissent pas, ils avaient fait un petit dossier où ils avaient posé à un certain nombre de personnalités la question qu'est-ce que la science-fiction? Pour vous, la science-fiction, c'est quoi? Et là, ils avaient reçu, pas beaucoup, il y avait maximum une vingtaine ou une trentaine. Je suis tombé sur ce dossier. J'étais très copain à l'époque, et j'ai dit, mais c'est une excellente idée, il faut faire ça sur une grande échelle. Et ils ont fait ça sur une grande échelle, et alors ce qui est extraordinaire dans ce livre, c'est toutes les idées reçues, confus, des rejets, ben c'est sociologiquement, d'un point de vue qualitatif, du tout quantitatif, très très intéressant. Il y a même une réponse du Vatican qui conseille de consulter la hiérarchie locale.
Et qui a marqué à cette époque justement ce retour, de l'ensemble de retours. Alors, on est presque au milieu de la rencontre, alors on va peut-être laisser un moment de projet d'autres aspects à voir, on va revenir aussi sur son travail d'auteur. Qui a une question d'ores et déjà? Je vais vous donner la parole le plus tôt possible dans le cadre d'un café, alors je vais me déplacer parce que je pense qu'il n'y a pas d'autres micros.
Oui, donc j'ai deux questions à vous poser. Une première question, vous avez participé à un ouvrage sur psychanalyse et science-fiction. Donc qu'est-ce que vous pensez des concepts psychanalytiques dans l'interprétation des thèmes de science-fiction? Parce qu'on parle des essais, parce que vous disant que les essais finalement avaient du mal à percer. Et puis j'ai une deuxième question qui est pas vraiment lié, mais un petit peu quand même. Qu'est-ce que vous pensez, d'ailleurs, le congrès en est très révélateur, du développement des neurosciences, même des neurosciences, actuellement, la science-fiction actuelle?
Alors, ce sont deux questions auxquelles une centaine d'heures, à peu près pour chacune, ne suffirait pas pour répondre. Je veux dire que, en ce qui concerne la relation entre le concept de la psychanalyse, en fait, il y a 5 ans, pour l'essentiel, et la science-fiction, je me suis surtout exprimé dans une préface au volume Histoire des mirages, qui est paru dans la grande anthologie de la science-fiction. Alors moi, je vous conseille de vous y reporter parce que c'est long et compliqué. Cette préface, comme beaucoup de préfaces, postfaces et autres textes, est disponible sur le site de Carnegie. Donc, c'est la préface d'Histoire de Mirage. Cette anthologie réunit des textes qui ont pour point commun enfin, d'être relatifs à des thérapies, des psychothérapies, des plus ou moins fantastiques, plus ou moins extraordinaires. Et ça m'a été l'occasion d'établir enfin une espèce de rapport entre les deux. Cela dit, je ne pense pas qu'il y ait de rapport immédiat et direct entre le concept de la psychanalyse enfin, et la science-fiction, et en particulier qu'on puisse donner à la science-fiction une interprétation proprement psychanalytique. De telle ou telle heure, pourquoi pas, on peut s'y risquer. Mais ce n'était pas le sens de mon essai, à Trams et Noirlet, qui a d'ailleurs été réédité fort bien depuis aux éditions du Seigneur, et qui a même fait l'objet d'un petit colloque, un colloque terrestre il y a 3 ou 4 ans, dont les actes ont été également publiés par les éditions du Seigneur. dans cet essai de Trams et Merveilles, j'introduisais une idée certainement pas freudienne. C'est celle que, dans certains cas, j'étais parti de Lovecraft, l'auteur semble en dire sur son groupe social plus que normalement il ne devrait en savoir. D'où il vient ce savoir, et c'est ce que j'essaie d'expliquer dans cet essai en imaginant le concept de subjectivité collective. Je n'ai pas dit sujet collectif, mais bien subjectivité collective. Donc, chacun a une subjectivité, et nous sommes également traversés par une subjectivité beaucoup plus vaste qui nous parle et dont nous arrive de parler. Je crois que j'ai répondu, enfin j'ai essayé de demander
deux questions. La première partie, la deuxième question, c'était sur les neurosciences.
Ah oui,
je vous montre en même temps les images de Pérez, donc ces journées interdisciplinaires qui avaient été notamment en 2009 autour de la notion de subjectivité collective, donc qui vous rappelle aussi que Gérard n'est pas simplement un très grand auteur et un grand éditeur, mais aussi un essayiste, explorateur vraiment des liens entre les sciences humaines et la science-fiction à proprement parler. Alors vous aviez une deuxième question sur les neurosciences.
Bon, alors c'est quand même pour revenir très brièvement à l'étudiant, je n'ai pas fait des études dans ce domaine, mais je pratique de la chose. Mes grands amis étaient Claire Félida qui a introduit à l'université française, en particulier à Paris 7, l'enseignement de la psychanalyse, qui malheureusement a décédé il y a quelques années. Bon, alors sur les neurosciences, ce n'est pas vraiment ma spécialité, donc je n'ai pas énormément de choses à dire. Sinon, une de mes convictions profondes, c'est que si nous parvenons déjà, si nous parviendrons certainement à expliquer, à déchiffrer certains mécanismes locaux du cerveau, parce que dans le domaine de la perception et peut-être dans la mémoire, nous sommes extraordinairement loin de comprendre comment le cerveau et l'intelligence fonctionnent. Tous ceux qui m'ont un peu lu savent que je suis un adversaire. Peut-être provisoire, mais forcené de l'intelligence artificielle forte à laquelle je ne vois pas une seconde. Je suis d'ailleurs extrêmement sceptique en ce qui concerne le projet juridique qui s'appelle Human Brain, ou quelque chose comme ça,
Human Brain Project,
qui consiste à reproduire par des moyens informatiques le fonctionnement du cerveau. D'abord, les ordres de grandeur sont pas du tout les mêmes, même si on suppose que nos ordinateurs doubleront de capacité tous les 18 mois, suivant la loi de Moore, nous sommes très loin avant le temps de la capacité d'un cerveau humain. D'autre part, et surtout, nous ne savons absolument pas comment fonctionne. Nous n'avons pas le début, le commencement, l'ombre d'une idée de la façon dont fonctionne l'intelligence humaine. Donc, voilà la progression de machine. Il y a un pas que je ne franchirai pas de peur de tomber dans un gouffre insondable.
Voilà, ce qui fixe assez clairement le curseur pour Gérard Klein entre la réalité, la rationalité et tout ce qui est de l'ordre, on va dire, de la fantasy, sans provocation. D'autres questions pour l'instant, oui. Je vais vous donner un maximum la parole.
Moi, ce n'était pas tellement une question, c'est juste pour entendre Gérard Klein parler du formidable roman complètement ignoré. Je me suis même demandé si je n'étais pas le seul à l'avoir lu, mais je pense que non. Il s'appelle La Stochastocratie, qu'il a publié sous le nom de Gilles Largier. D'ailleurs, une sous-question, pour quelle raison ce nom
non
pas votre nom.
Non, attendez, il n'a jamais été publié sous le titre de Stochastocratie. Il a été publié sous le titre Le Sceptre du hasard.
Oui.
Ce qui m'a d'ailleurs valu une chose assez amusante, c'est que dans une des encyclopédies Larousse, un petit article m'est concerné, parmi celles de mes œuvres de l'époque au moins qui sont citées, il y a un certain Sceptre du hasard. Je me suis toujours dit qu'un jour j'écrirais le Sceptre du hasard pour leur donner rétrospectivement raison. Le Sceptre du hasard donc, fait partie des ouvrages que j'ai écrits pour le Fleuve Noir. Bon, je ne cacherai pas qu'ils avaient, quand j'étais étudiant et puis ensuite quand j'étais soldat, une vocation nourricière, une vocation alimentaire, mais enfin pas seulement, j'ai toujours essayé de faire le boulot aussi bien possible. Et donc il y a une trilogie qui raconte la terraformation de Mars. ce qui, dans les années 50, quand ils ont écrit, était une idée relativement nouvelle. Puis le quatrième volume, qui n'est pas de rapport immédiat, c'est précisément ce sceptre du hasard, où j'introduis le concept de stochastocratie. Pourquoi stochastocratie ? C'est le pouvoir, justement, stochastique, c'est-à-dire qui est décerné par l'hasard. Je décris une société dans laquelle on tire au sort celui qui va détenir le pouvoir. C'est l'aboutissement de la société où on fait confiance au sondage. Évidemment, ça a des conséquences, plutôt ça ça exige certaines circonstances, c'est-à-dire que tous ceux qui sont un peu à côté de la plaque sont éliminés, renvoyés sous terre, on les appelle les indignes. Et les autres, le système, bien entendu, se lève à un moment ou à un autre un peu truqué. Ce n'est certainement pas le meilleur roman. Mais je pense que c'est un roman assez propre sur lui et que l'idée qui est défendue, enfin qui est proposée directement, est intéressante, elle mérite d'être creusée. L'idée, c'est, à l'époque pour moi, c'était totalement original. Après, j'ai découvert que c'était tout à fait vrai, puisque c'est une idée qu'on trouve également dans les premiers romans de Philippe K. Dick, que je n'avais pas lu à l'époque, le titre m'échappe, enfin, je peux dire. L'autrice solaire, voilà. L'autrice solaire. Enfin, c'est un tome très peu couru et qui, historiquement, a un sens. Il y a eu plusieurs sociétés dans lesquelles le pouvoir a été dévolu par la chance. C'était le cas à certains moments de la démocratie athénienne, au moins pour une partie de l'Assemblée. Et surtout, ça a été le cas à Venise pendant assez longtemps. C'était une façon d'éviter que le pouvoir soit tenu trop longtemps par une faction importante. Bien entendu, tout système, y compris le fonds de solidarité, se truc.
Donc on est dans Gilles d'Argir. Est-ce qu'on continue sur la partie justement Gérard Klein, auteur? Qu'est-ce qu'il veut encore poser des questions sur cette partie-là de son travail? Ou sur autre chose? Non, pas d'autres questions?
Bon, tu as abordé beaucoup de sujets et de volets, de facettes de la carrière de Gérard, et peut-être celle qui concerne sa participation à la grande anthologie de la science-fiction Histoire 2, qui a aussi été, avec la collection Ailleurs et Demain, été un des fondements de la culture science-fictionnelle de beaucoup d'entre nous.
Alors, comme tout en ce moment, ça a l'air simple après. Le moins qu'on en puisse dire, c'est que ça n'a pas été. J'ai expliqué la pré-jeunesse d'Ailleurs et Demain, à partir du moment où, pour revenir brièvement sur Ailleurs et Demain, à partir du moment où Robert, vers le fond, a donné son accord, ça a été énormément de travail. Je voulais par exemple quand même parler de la couverture des Ailleurs et Demain pendant 30 ans, ou presque 40 ans, enfin 35 ans au moins. J'avais repéré ce matériau dans une collection de disques Philips qui s'appelait Prospective 2001 ou 2000 ou quelque chose comme ça, qui est une collection de musique contemporaine, je vois ça chez Prospective. Alors j'ai dit à la fonde, voilà ce qu'il nous faut comme couverture. La première chose qu'on m'a répondu les services techniques, c'est absolument impossible. Finalement, il y avait un directeur de fabrication très astucieux et très têtu, qui s'est entêté, et même si les premiers volumes ne se sont pas très, très bien comportés, dont avec le temps, on a bien réussi à stabiliser la chose et on a été obligé d'arrêter le jour où la société elle-même a disparu. Il y a quelques années, il y a eu un long intervalle qu'on était revenu à Hillefort. Et la société Hillefort, j'ai découvert, mais ça c'est toute une histoire, l'histoire de Hillefort qui datait de l'entre-deux-guerres. Alors, ça doit pouvoir se trouver sur Internet, comme un film qui est passé. Parce qu'on revient à la grande anthologie, l'histoire de c'était une idée, premier à avoir cette idée, c'était Jacques Bonnard, qui s'est associé de maître de Archimédis, qui avait une bibliothèque d'anthologie de science-fiction américaine très importante, et puis le tient très proche. Guamin lisait peu ou mal ou pas du tout l'anglais, donc il n'était pas faire ça seul, vraiment c'était une énorme entreprise. Donc il a convaincu Bernard de Fallois, qui était à l'époque le second du livre de poche, de nous faire des contrats pour lancer cette anthologie, qui devait initialement comporter 12 volumes. Et comme nous étions prudents, quand nous avons lu des centaines de nouvelles, on a arrêté de chiffrer le nombre à 500, mais je pense qu'on a dû lire entre 500 et 1000 à peu près. Nous avons pris des notes pour éventuellement faire d'autres volumes, et nous avons eu bien raison de le faire. Cela étant, donc, les sommaires, etc., au niveau de poche, les directions ont changé, et malgré les contrats, etc., ça ne les enthousiasmait pas du tout, donc ça a été un combat absolument épique. Et les 12 premiers volumes sont parus, ont commencé à paraître en 1973, je crois. Et puis ça a été assez, mais je ne veux pas savoir ce que ça a représenté. Pas très bien à l'époque. Enfin, pour moi, ça a été une chose sur les travaux. Alors, ça a été un succès rapide et considérable. Les premiers volumes sont vendus dans les 120, 140 000 exemplaires en très peu de temps. Si bien qu'on nous a demandé une deuxième série, que nous avons faite grâce aux notes que nous avions accumulées, qui est paru à partir de 1976, ou quelque chose comme ça, jusqu'en, pas bien exactement quand, mais c'est facile à trouver, je crois, jusqu'en 86, quelque chose comme ça. Alors ça a vraiment eu un très très gros succès, et je pense que ça a changé la perception qu'on pouvait avoir, que le public français pouvait avoir de la science-fiction à l'époque. Dans la foulée, j'ai par la suite lancé une petite série annexe dédiée à la science-fiction française, mais elle était très très loin d'avoir eu le succès des deux séries précédentes.
Il y avait en tout 5 volumes sur la science-fiction française.
6.
Ouais, c'est vrai que cette histoire, enfin, cette anthologie, l'histoire 2, a complètement conditionné mon rapport à la science-fiction, et notamment toujours autour de la nouvelle. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Ce que je préfère, c'est la nouvelle. La quintessence de la science-fiction, c'est la nouvelle. Est-ce qu'aujourd'hui encore, c'est le cas? Est-ce qu'aujourd'hui encore, la science-fiction a gardé cette... Est-ce que la nouvelle est toujours au centre de la production de science-fiction aujourd'hui? Est-ce que tu vas juger toujours plus... précisément une nouvelle, est-ce qu'un auteur capable de faire une nouvelle très brillante est meilleur qu'un auteur de roman?
Non, je pense pas que ce soit toujours le cas. D'abord, il y a d'excellents romans, il y a d'excellents romanciers. Je dois dire aussi que je suis très au courant de la production anglo-saxonne de nouvelles. Je suis... je l'avoue, quand même un peu déçu parce que je lis, aussi bien d'ailleurs venant de la plupart, pas du tout, si on a l'excellent français que les anglo-américains. Il y a ça une raison, en tout cas en ce qui concerne le domaine anglo-saxon, c'est la disparition des éditeurs. Quand des revues comme Analog, enfin dirigées par Campbell, ou d'autres revues comme. Le magazine de la fantasy en science-fiction qui a été édité en France par Fiction a été dirigé par Camille Boucher, ou une revue comme Galaxy à ses débuts était dirigée par Goy. C'était des vrais éditeurs, c'était capable de conseiller les éditeurs, de prendre un texte, de demander de couper ceci, de rajouter ça, enfin, etc. Et ce sont, donc, pour des raisons qu'ils appelleront rapidement économiques, les éditeurs ont disparu partout. Surtout aux États-Unis, et du coup, la qualité des textes, à mon sentiment, s'en est beaucoup ressenti. Et encore une fois, j'ai perdu un peu le contact avec la production nouvelle, donc je ne peux pas vraiment parler qui se sort aujourd'hui. Il y a de très bons auteurs. Je crois quand même que le roman est souvent beaucoup trop long parce qu'il n'y a, pas d'éditeur non plus. Souvent beaucoup trop long. Quand même pris une place dans la production qui n'aurait peut-être pas les années 50 et 60.
Alors, est-ce qu'on a encore des questions pour M. Gérard Klein? Alors, moi, j'en ai une maintenant sur l'auteur. On va revenir sur l'auteur. Donc, tu l'as dit, hein, c'est une histoire d'amour, mais une histoire d'amour à plusieurs terrains, plusieurs tonalités, plusieurs modalités. Celle de l'auteur a été un peu sacrifiée. Alors, moi, ce dont je rêve, c'est que l'auteur revienne. Alors, est-ce qu'il est envisageable, Gérard, est-ce qu'on peut espérer Alors, il y a eu un recueil, de nouvelles, hein, bien sûr, tu as fait un recueil il n'y a pas très très longtemps. Est-ce qu'on peut espérer un roman ou un retour de Gilles d'Argire, peut-être?
Un roman, je ne sais pas. J'ai un roman inachevé qu'il faudrait absolument que je reprenne, qui avait fait l'objet d'une commande du Seuil, une collection qui a disparu. Ce roman s'appelle L'autre monde. Il était consacré à la vie artificielle. J'en ai écrit la totalité du plan, mais je n'ai pas travaillé à côté d'un plan, mais je sais que l'éditeur le demandait. Et j'en ai rédigé peut-être un petit tiers. Pour toutes sortes de raisons, je n'ai pas pu continuer parce qu'il y avait trop de choses à faire ailleurs. Je le reprendrai peut-être un jour. J'ai d'autre part en tête ou dans mes papiers un certain nombre de nouvelles, dont la suite dont je parlais tout à l'heure, les virus ne parlent pas, qui devra s'intituler Le virus comme la danse. J'ai un certain nombre de projets. Cela dit, j'ai toujours de tas de tâches à accomplir. J'ai ces préfaces à écrire, ça prend beaucoup de temps. Enfin, ça va se calmer sérieusement parce que la collection des livres de poche a disparu. Enfin, en tout cas, je ne la dirige plus. Je ne pense pas que j'aurai successeur. Donc, ça me libère un peu de temps. Mais il y a aussi le fait que je ne suis plus près de ma jeunesse. Et je ne peux pas, comme autrefois, passer une nuit à lire ou à travailler ou à écrire et puis retourner le lendemain au bureau, comme si de rien n'était, après éventuellement un café. Alors, je dois en ce moment, je viens de me livrer strictement pour mon bénéfice personnel. J'ai écrit cet été un article, je me faiblesse de voir un bouquin, sur. Le livre de Guy Larbreau, que vous connaissez tous par cœur, j'espère, fiction philosophique et science-fiction, qui devrait paraître dans un recueil d'articles consacré à Larbreau, auquel préside Esther Larbreau, sa veuve, à la fin de cette année. Et ensuite, je suis livré pour mon bénéfice personnel à une critique très fouillée du très bon livre de l'Empire du pseudo. C'est un excellent livre, je vous en recommande la lecture. Je l'ai lu tant vivant, je ne voyais pas ma carte dessus. Finalement, Saint-Gelais l'a fait parvenir par l'intermédiaire de l'anglais, que je remercie de s'être interposé. C'est un excellent livre, en même temps, c'est un livre qui m'a beaucoup agacé. Une relecture, une troisième lecture très attentive, crayon en main, parce que. Il y a un côté asset machine, si vous voyez ce que je veux dire, en pointant tous les défauts discursifs de stylistique, si vous préférez, de transcription, finit par conclure, enfin donner l'impression en tout cas dans les lecteurs que c'est un genre pas très important. Le titre dit trop de choses, la paix du pseudo, c'est la paix du temps. Mais c'est un excellent livre, et justement, qu'il faut lire pour éviter les pièges qu'à juste titre Richard Saint-Gelais collègue, t'es dans le site. Alors ensuite, il faudrait que je prépare, ça fait des années que j'ai promis ça aux éditions au fond, un recueil de mes articles, directement un recueil de mes premiers articles. C'est un gros travail, il faut que je me relise, j'ai appris ça, il faut que je m'édite, etc. Et après, je m'en mettrai peut-être avec quelque chose, mais enfin là, je crois que je suis déjà occupé pour un bon nombre de mois.
Alors là, vous avez sur 42 les archives stellaires, Gérard Klein, les préfaces, les postfaces, vous avez tout en disponibilité, en lecture, format numérique, avec toutes ces préfaces, ces romans qu'il a fait, notamment les préfaces pour les anthologies Histoire 2, pour les anthologies francophones, pour la grande anthologie de la science-fiction, y compris des postfaces aussi, des différents titres de la collection. Donc il y a deux mondes en fait. Il y a le monde dans lequel nous vivons, où tu nous as guidés, par tes préfaces, tes postfaces, tes articles, dans la compréhension de la science-fiction. Et puis, il doit y avoir un autre monde où tu as choisi d'être auteur et où tu as dû écrire des tas de romans merveilleux, mais malheureusement, nous n'avons pas eu ces postfaces. Alors, je ne sais pas lequel je préfère. Mais en tout cas, je tiens, moi, à titre personnel, vraiment, en tant qu'auteur, en tant qu'organisateur d'événements autour de la science-fiction, en tant que membre d'une communauté universitaire qui étudie la science-fiction, à vraiment te dire un grand merci. Parce que toutes ces préfaces, toutes ces postfaces, toutes ces analyses ont été particulièrement un terreau fertile pour tous les universitaires qui aujourd'hui, certains sont dans la salle, et qui étudient la science-fiction. J'ai une question sur ça. Aujourd'hui, la science-fiction est vraiment devenue un objet d'étude, un objet de recherche universitaire. Je veux dire, des thèses sont soutenues. C'est quelque chose qui était encore qui existait déjà, mais qui était encore peu fréquent. C'est devenu quelque chose de presque trop fréquent. Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que tu penses que quelque part c'est une victoire ou c'est une forme de cristallisation du genre? Est-ce que on dit toujours quand la recherche s'empare d'un corpus, c'est qu'il est achevé? Alors bien sûr, la science-fiction n'est pas achevée.
Je ne sais pas exactement en tout cas ce que moi je dis.
Ce que non, c'est ce que
je dis. Moi. Je maintiens, hélas, je vais voir, c'est quelque part de. La BN s'est beaucoup intéressée à la science-fiction, elle
oui.
a un certain nombre d'entre nous nos archives, on connaît pas trop permis, elle fait plus avoir la fête beaucoup mieux, enfin je tâcherai d'en donner le reste. La BN s'est beaucoup intéressée, et puis l'université, grâce à des gens comme l'anglais, comme Simon Bréant ici présent, enfin Natacha Masdéas, qui ont fait des thèses tout à fait extraordinaires, qu'il faut absolument lire. Et alors ce que j'ai fait comme remarque un peu acide à l'époque, c'est les institutions, et en particulier l'ABN et l'université, aiment beaucoup les cadavres du train. Le problème, c'est que en ce moment, ceci, dans tout le monde industriel, aussi bien aux États-Unis qu'en France, nous assistons, j'ai dit un mot tout à l'heure, à une diminution considérable du lectorat. Une baisse considérable de l'octorat et par extension de la production, de la production de qualité. Les raisons, les explications de cette chute qui est observable après l'année dernière, à partir de 1995 à peu près, donc ce n'est pas une mode de l'année dernière, ça fait maintenant pratiquement 20 ans qu'on voit une courbe qui est comme ça et qui rend maintenant les choses très difficiles. Et l'explication à donner, c'est sont pas simples. Il y en a une qui tient probablement à la composition du lectorat, un milieu scientifique et technique, qui s'est enthousiasmé pour la science-fiction dans son avenir était glorieux, qui maintenant que la cause de mondialisation, ce qu'on appelle parfois un peu activement très économique, son avenir est moins glorieux, ça s'intéresse beaucoup moins à l'avenir, que ce soit pour. Que ce soit dans le sens de la critique ou que ce soit dans le sens de l'émerveillement. Il y a probablement d'autres raisons à ce que je constate dans la société française, et pas seulement d'ailleurs, c'est une méfiance de plus en plus grande à l'endroit de la science, parallèlement au déclin dont je parlais, un déclin de la consommation de presse scientifique au niveau, enfin, au niveau de la recherche pour la science, la science à venir. Les éditeurs sont venus de se battre pour simplement survivre. Et il y a aussi une très grande méfiance que je constate en tant que prospectiviste énorme, vis-à-vis de l'avenir. À partir du moment où les gens n'ont plus confiance en leur propre avenir, n'ont pas confiance, n'ont pas une grande confiance en la science, et n'ont pas, ce qui est très très grand, et n'ont pas une grande confiance en l'avenir en général de la société, qu'est-ce qu'ils disent de la fantasy du New Moyen Âge.
Ah, ça c'est la provocation. La fantasy au Moyen Âge. Bon. Alors, est-ce qu'une dernière question? Une dernière question, je vois là-bas, il y a Hugues Chabot qui se cache. Une dernière question à Monsieur Klein, peut-être sur son parcours. Ou, Moi, j'aime bien une phrase que tu as citée. J'ai lu énormément tes préfaces. Et je me suis vraiment plongé dedans. Il y a une phrase qui est jolie, qui je pense pourrait être une bonne conclusion. Tu dis, pour ailleurs et demain, tu dis, il y avait beaucoup d'incongruités, mais toutes les conditions de l'échec étaient réunies et ce fut un succès. Alors finalement, c'est peut-être dans le moment le plus grave, le moment de crise, le moment où justement il n'y a plus de confiance en l'avenir, que va émerger précisément la nouvelle, un nouveau succès, une nouvelle étincelle, une revanche de la science-fiction. Moi, j'y crois.
C'est possible, mais là-dessus, je dirais deux choses. D'abord, il est possible que la science-fiction émerge en ce moment sans que moi j'en sache rien, dans des pays qui sont précisément en ascension rapide. Je pense à la Chine, dans une certaine mesure à l'Inde, et où le groupe social dont je parlais connaît une ascension sociale fulgurante. Donc il est très possible qu'il se passe des choses essentielles en Chine et en Inde. Un des problèmes en ce qui concerne la Chine, c'est que la science-fiction n'est compatible qu'avec un certain libéralisme politique avancé. On a toujours constaté, enfin, ce serait trop long de détailler ici. Donc il est tout à fait possible que ce soit là que se passe aujourd'hui ce qui s'est passé, disons en Europe pour faire très simple, au 19e et au 20e, Europe aux États-Unis au 19e et au 20e siècle. Bon, la deuxième réflexion, c'est que je suis persuadé que cette espèce littéraire, ceux qui me connaissent, je déteste le terme de genre, en tout cas dans ce sens-là, il est très possible que cette espèce littéraire connaisse un renouveau important dans un avenir indéterminé. Mais quand, ça je n'en sais rien. Ce que je constate simplement, avec l'œil de l'économiste ou du socio-économiste, c'est que nous avons vécu, nous vivons encore une période de regrettable déclin. Peut-être demain, peut-être dans 5 ans, peut-être. C'est déjà arrivé dans le passé, il ne faut jamais désespérer l'avenir.
Très bien, ce sera une super conclusion. Merci beaucoup Gérard, merci à vous, merci beaucoup. Une bonne continuation dans votre festival.